Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe dont l'aventure débuta durant l'été 1967. Elle débuta par l'ex-batteur des Searchers, Chris Curtis, qui réussit à convaincre un homme d'affaires londonien, Tony Edwards, de financer son idée. Il souhaite en effet former un super groupe nommé Roundabout, qui veut dire carrousel, et justement il veut former autour d'un noyau de musiciens stables divers artistes qui seraient invités à monter sur scène pour jouer brièvement avec eux avant de laisser la place au suivant, tel un carrousel. Pour former le noyau du groupe, Curtis recrute l'organiste de formation classique John Nord, ex The Hard Roots, et le guitariste studio Richie Blackmore, ex Savages, entre autres. Comme bassiste, Lord suggère Nick Samper, avec qui il joue au même moment au sein des Flower Pot Men, dont la chanson Let's Go to San Francisco devient un hit de l'automne 1967. Mais en fait, le concept de carrousel tourne court. Alors, Richie Blackmore, après cet essai infructueux avec le batteur Bobby Clark, également un ex-Savages, organise en mars 1968, avec John Lord, des auditions pour trouver un chanteur. Rod Evans, chanteur du groupe The Maze, arrive accompagné de son batteur Ian Paice, et tous deux sont aussitôt engagés. Roundabout part alors en tournée au Danemark et en Suède en avril 1968. Durant cette tournée, le groupe adopte son nom définitif sur une suggestion de Blackmore, Deep Purple, qui est un standard des années 30 et qui était aussi la chanson préférée de la grand-mère de Richie, qu'elle jouait souvent au piano. De retour en Angleterre, Deep Purple décroche un contrat avec EMI, au Royaume-Uni, et Tetra Grammaton Records aux États-Unis, grâce au producteur Derek Lawrence. Leur groupe enregistre son premier album en deux jours, du 11 au 13 mai 1968, au Studio Pye de Londres. Produit par Lawrence, Chad of Deep Purple reprend essentiellement le répertoire scénique contemporain du groupe. En juillet, Deep Purple donne quelques concerts en Angleterre et en Europe, mais ne parvient pas à convaincre le public qui trouve leur musique lente et pompeuse. La critique n'hésite pas à les qualifier de « Vanilla Fudge » du pauvre. Tandis que Mick Varen, leader des Deviants, parle de croisement entre du mauvais Tchaïkovski et un B-52 au décollage. L'album Shades of Deep Purple sort au mois de juillet 1968, accompagné du 45 tours Hush. Et les deux disques rencontrent un succès notable aux États-Unis. Le premier atteint la 24e position du classement Billboard réservé aux albums, tandis que le second se classe 4e des ventes de singles. Cette popularité inattendue du groupe sur le sol américain lui permet d'être choisi pour y assurer la première partie de la tournée d'adieu de Cream avec Eric Clapton, Jack Bruce et Ginger Baker en octobre 68. En revanche, le succès n'est pas au rendez-vous au Royaume-Uni. En effet, la version de l'album qui y est éditée par Parlophone en septembre passe totalement inaperçue. La première chanson de l'album est une chanson que Joe South a écrite, Hush, pour le chanteur américain Billy Joe Royal, qu'il enregistre en 1967. Sa version obtient un certain succès au hit parade américain. Elle est bientôt reprise par le chanteur anglais Chris Ive, dont la version connaît un certain succès en Europe, et c'est elle que Deep Purple découvre. Elle intègre rapidement son répertoire scénique. La chanson restera dans le répertoire joué sur scène, malgré le départ du chanteur Rod Davens, qui interviendra quelques temps plus tard. En 1988, le groupe célèbre même son 20e anniversaire en enregistrant une nouvelle version de Hush, chantée cette fois par Ian Gillan, qui figure en bonus sur l'album live Nobody's Perfect. En 1968, Hush est adapté en français par George Eber sous le titre Mal pour Johnny Hallyday sur l'album Jeune Homme. Sur son album Ringo Levio de 1987, Little Bob, un rocker de cette période bien français, propose une version modernisée et très vitaminée de Hush. Pour marquer la notoriété de cette chanson, en 2015 à Bordeaux, le Deep Purple du moment l'avait interprétée, c'est tout dire. C'était Hush par Deep Purple sur Oxy Web Radio. La chanson suivante est une chanson des Beatles, Help, parue en single en juillet 1965, puis utilisée comme chanson-titre de leur cinquième album et du film dont ils sont les vedettes. Crédité Lennon-McCartney, Help est principalement écrite par John Lennon, mais il faut savoir que Paul McCartney raconte qu'il a apporté son concours pour la compléter durant une session de travail dans la maison de John Lennon. On la retrouve d'ailleurs dans la compilation The Beatles 62-66. C'est pour dire que cette chanson était assez importante dans la carrière des Beatles. Et il est sûr que son choix par le groupe Deep Purple, qui se veut plutôt un groupe, on va dire, interprétant une musique assez dure, est assez étonnante. Help a été aussi reprise par de très nombreux artistes, il faut le savoir, parmi lesquels Roy Orbison, José Feliciano, les Carpenters, Tina Turner et tant d'autres. Et plus récemment, par une série américaine d'ailleurs, Glee. Elle a aussi été interprétée en français, notamment en 1965, par Les Index, qui était un groupe de l'époque, sous le titre « Elle », et parodiée plus tard également par les Bidochons, qui n'avaient retenu que « Hep ». Même The Beatles s'y sont mis et en ont fait une imitation intitulée « Ouche ». Une rumeur dit que Paul McCartney a beaucoup apprécié en fait la version de Deep Purple, et autorisera par la suite les reprises des chansons des Beatles par Deep Purple. Pour lui, le style était vraiment original pour l'époque et respectait finalement assez bien l'idée que voulaient porter les paroles de cette chanson. On peut préciser le choix fait par le groupe d'adopter un rythme lent pour la chanson en comparaison de celle des Beatles qui est assez dynamique. Aussi la prédominance de l'orgue, et là on voit bien le rôle majeur que tenait John Lord à l'époque. On peut quand même noter la recherche de nouvelles sonorités, aussi bien avec un orgue qu'avec une guitare. Là, en tout cas, c'est surtout l'orgue qui est mis en évidence. Et enfin, la très belle voix de Rod Evans, qui malheureusement autant lui confère du succès ici, autant par la suite lui posera quelques soucis.
Thank you.
C'était Help, interprété par Deep Purple sur Oxy Web Radio. Après le succès remporté par le premier album, le groupe a hâte d'enregistrer le deuxième. Il s'appellera The Book of Taliesin et il sortira lui aussi à la fin de 1968. Bénéficiant de quelques semaines de liberté, avant de partir outre-Atlantique pour une longue tournée américaine, les cinq musiciens entrent au studio de Lane Lea en août pour enregistrer leur deuxième album. Il inclut trois nouvelles reprises de standards de l'époque. D'abord Kentucky Woman de Neil Diamond, que nous allons écouter ensuite, We Can Work It Out des Beatles et River Deep Mountain High de Ike et Tina Turner. La pochette de l'album est dessinée par John Lord et la sortie de l'album est fixée de telle sorte qu'elle coïncide avec le départ de la tournée américaine. Cependant, celle-ci s'achève de manière abrupte. Le groupe est renvoyé après seulement trois concerts. Ils parviennent néanmoins à décrocher de nouvelles dates sur la côte ouest des États-Unis jusqu'au début de l'année 1969. C'est durant cette tournée que Ritchie Blackmore abandonne sa Gibson ES-335, qu'il utilisait depuis longtemps, au profit d'une Fender Stratocaster, qui d'ailleurs au départ fut noire, qui devient sa guitare de prédilection. Malgré la présence de Deep Purple sur le sol américain, ni The Book of Taliesin, qui n'atteint qu'une pauvre 54e place au Billboard, ni les singles Kentucky Woman, 38e, ou River Deep et Mountain High, 53e, ne parviennent à faire aussi bien que Shades of Deep Purple et le single Hush. Le Deep Purple des débuts, comme je disais tout à l'heure, s'inscrit dans le style et veut imiter Vanilla Fudge. Vanilla Fudge est un groupe américain fondé à New York en 1967. Leur propos était de faire le lien entre le rock psychédélique et ce qui devient ensuite le heavy metal. Il est clair que c'est vraiment l'aspiration profonde de Deep Purple. Mark Stein au clavier, Tim Bockert à la basse et le batteur Joey Brennan, rapidement remplacé par Carmine Appice, qui est bien plus technique. Et d'ailleurs, pour certains fans de Jeff Beck, évidemment, ils ne manqueront pas de penser au groupe qu'il va pas tarder à former avec eux, et cette future association tronitruante que fut Beck, Bockert et Appice. La chanson que je vous propose maintenant est une chanson instrumentale, Ruins at Neck, et c'est l'exemple type de l'aspiration du groupe à emboîter le pas de Vanilla Fudge, tout comme leur version de Help ou de Hey Joe du premier album, ou encore Mandrake Roots qui fait partie de ce deuxième album et qui est tout à fait dans la même lignée. We'll be right back. c'était Rings and Neck par Deep Purple sur Oxy Web Radio. Pour la chanson suivante, Kentucky Woman, chanson de 1967, écrite et enregistrée à l'origine par Neil Diamond, Deep Purple s'engage dans un rock plus classique où chaque musicien trouve sa place et montre sa virtuosité. Et en même temps, il reste classique à ses aspirations tirées de Vanilla Fudge. Neil Diamond a enregistré Kentucky Woman comme son dernier single à succès pour la maison de disques Bang Records. Sorti en octobre 1967, donc on voit c'est assez récent, il a atteint de bons succès aux USA et en Australie ainsi qu'au Canada. Enregistré par Deep Purple avec une sensationnelle partie instrumentale, très différente évidemment de ce que faisait Neil Diamond, sinon peut-être rivalisé au niveau de la ligne de chant, pour Deep Purple c'était leur deuxième single en 1968. Il a réussi à atteindre la 38e place sur le Billboard Hot 100, aux États-Unis, la 21e place au Canada et la 27e place en Australie. Ce qui est assez étonnant, puisque pour eux, c'était finalement une arrivée sur ces nouveaux territoires. Donc après Hush, c'était finalement leur deuxième expérience, suivant en cela, quelque part, les lieux où Neil Diamond avait eu lui-même du succès. La version unique est une édition de la version de l'album et dure 4 minutes et 4 secondes. Une version remasterisée apparaît sur l'album du 30e anniversaire, The Very Best de Deep Purple, et dure, elle, 4 minutes et 45 secondes, la partie instrumentale étant allongée. Deep Purple a joué Kentucky Woman en tournée en 1968 et 1969, même après que Ian Gillan ait rejoint le groupe à l'été 1969. Il n'a jamais été sur la liste de Deep Purple sur scène depuis. Même si je pense que Strange Kind of Woman, paru sur l'album Fireball, en sorti en 1971, lui ressemble un peu, mais avec une définition plus propice à ce que faisait le groupe à l'époque, en particulier le duo Richie Blackmore à la guitare, Ian Gillan à la voix, avec une rythmique d'enfer assurée par Ian Paice et Roger Glover à la basse, tel qu'il fut mis en évidence pour l'album live Made in Japan. Mais c'est un avis personnel. En tout cas, écoutons Kentucky Woman, qui, elle, est quand même une très très belle chanson. We'll be right back. C'était Kentucky Woman par Deep Purple sur Syrox et Web Radio. Malgré le relatif insuccès du deuxième album, Deep Purple s'attaque aux premières sessions du troisième opus, toujours produit par Derek Lawrence. Ça a lieu de janvier à mars 1969, en même temps qu'une tournée en Grande-Bretagne. Cette fois, la pochette représente des membres du groupe intégrés dans le volet L'Enfer du Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui donne d'ailleurs une allure assez particulière à cet album. La version de la pochette est en noir et blanc, et son centrage diffère suivant les pressages. Notamment en Hollande, c'était pas exactement la même. Une seule reprise figure sur cet album, c'est la chanson « La Lénia de Donovan » que nous allons écouter. La Lena est le titre d'une composition donc de Donovan pour laquelle il a été classé dans le top 40 à l'automne 68, atteignant même la 33e place du Hot 100 dans le Billboard américain. En 2004, Donovan a révélé que la chanson était inspirée par l'actrice Lotte Lenya et que les paroles de la chanson adressées à une femme socialement marginalisée étaient la réaction de Donovan justement au personnage joué par Lenya dans la version cinématographique de The Three Penny Opera, qui est un peu le pendant de l'opéra à quatre sous en France. C'est une prostituée, disait-il, mais dans l'histoire du monde, dans toutes les nations, les femmes ont assumé divers rôles de prêtresse à putain, de mère à fille, de femme à épouse. Ce déguisement de pouvoir sexuel est très important, et là j'ai vu le sort du personnage. Je le laisse à sa déclaration. Donovan a créé cette chanson sur un style très à la mode à l'époque, c'est-à-dire avec un son type un peu Procol Harum, What a Shade of Pale, pour ceux qui connaissent, ou Moody Blues, mais ici avec un accompagnement guitare acoustique et flûte. Le passage en version avec l'orgamen de John Lord et la belle voix de Rod Evans collait parfaitement au titre. Mais on était loin, très loin, des aspirations des leaders, John Lord et Ritchie Blackmore, plus attirés par une musique très heavy, mais pas encore claire dans leur tête. C'est néanmoins l'occasion pour John Lord de mettre son orgue en évidence, son orgamon, et ça, il n'y rechigne jamais.
When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, Lelania. Arty-tart, la-di-da, can your heart get much sadder? That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, oh Lelania. Run your head your face with despair. That's your
your lot in life, LaLanya. I can't blame ya. Oh, LaLanya.
C'était LaLanya, joué par Deep Purple sur Oxy Web Radio. Avec cet album, tout simplement intitulé Deep Purple, troisième album du groupe, sorti en juin 1969 aux États-Unis chez Tridagrameton Records et en novembre de la même année chez Harvest Records au Royaume-Uni. Et l'édition originale américaine, d'ailleurs, est assez rare à trouver. En effet, entre-temps, Tetragrammaton a fait faillite pendant la commercialisation du fameux album. Comme pour son prédécesseur, The Book of Taliesin, Deep Purple a été enregistré à Londres, au studio d'Hélène Léa, et toujours produit par Derek Lawrence. Et il s'agit du dernier album du groupe avec Rod Evans et Nick Samper. Rod Evans, né en janvier 1947 en Écosse, mais dont la famille est venue s'installer près de Slough, près de Londres, commence sa carrière musicale en 1965 au sein de différents groupes, dont The Maze, qui publie quelques singles en 66 et 67, mais qui ne feront pas date. En mars 68, on l'a vu, il a rejoint Roundabout, avec John Lord et Richie Blackmore, rebaptisé Deep Purple, et en même temps que le batteur, donc Ian Paice. Par la suite, après le son départ de Deep Purple, il refera de la musique dans des groupes sans succès et il s'est reconverti assez rapidement dans la médecine et aux États-Unis. Nick Samper, lui qui est le bassiste, est né en novembre 1945 à South Hall, à l'ouest de Londres, et le bassiste qui joue dans différents groupes durant la première moitié des années 60, et notamment les Savages, avant de rejoindre Johnny Kidd and the Pirates en 66. Il joue par la suite avec Flower Pot Man, mais en 1968, il rejoint donc Roundabout, qui devient là aussi. Il participe donc aux trois premiers albums du groupe avant d'être renvoyé, et je dirais de façon un peu injuste, parce qu'autant Rod Evans aura montré ses limites dans différents morceaux que nous allons écouter maintenant, autant Nick Samper, pour moi, a toujours bien joué de la basse et a apporté une très très bonne contribution au groupe. Par la suite, Nick Samper a joué dans différents groupes qui sont restés peu connus et a surtout joué un rôle de producteur pour de jeunes groupes. Avec Why Didn't Rosemary, qu'on va nous écouter, eh bien, on commence à discerner ce vers quoi veut aller le groupe et qui annonce finalement ce qui va devenir le répertoire hard rock du Deep Purple qui a eu tant de succès. Désormais, les trois leaders, John Lord, Richie Blackmore et Ian Paice, un batteur venu du jazz au départ, mais qui est devenu par la suite une référence dans le panel des batteurs de hard rock, et j'avoue que c'est un de mes préférés. Alors je vous laisse deviner un peu ce que ça veut dire dessiner l'avenir du hard rock avec cette chanson.
Naturally mine.
Je crois que c'est clair, avec Wedding and Rosemary, joué par Deep Purple sur Kotsud FM. Là, on peut apprécier tout le jeu de Ritchie Blackmore et de ses profondes aspirations. John Lord est un homme têtu et Ritchie Blackmore sait rester son complice dans son projet d'essayer de faire aussi un lien entre la musique classique, qui est sa culture au départ, John Lord, et le rock, qui reste quand même l'aspiration profonde de Ritchie Blackmore. L'album contient donc un morceau, April, qui est une suite de plus de 12 minutes composée, je dirais, de 3 mouvements, avec une introduction instrumentale par le groupe, puis une pièce orchestrale composée par John Lord, et enfin une chanson rock plus conventionnelle. J'ai choisi de vous passer un extrait d'April, Avril en anglais. La première partie est donc instrumentale avec une introduction à l'orgue, rapidement remplacée par la guitare acoustique qui reste accompagnée d'un piano. Puis la percussion arrive, le mouvement se poursuit avec un chorus de guitare électrique très blues dans le genre et un chœur vocal à l'arrière assez gospel si j'ose dire. Il dure environ 4 minutes 20. Puis c'est la deuxième partie. Et cette deuxième partie, ce deuxième mouvement, est fait de musique classique, composée par John Lord, donc jouée essentiellement avec des flûtes et des hautbois, puis des violons qui prennent le relais. Et c'est un échange entre les deux types d'instruments tout au long des 4 minutes que dure cette partie. Et enfin, on arrive à la troisième partie, qui est le troisième mouvement, qui est plus rock, et reste assez fidèle à ce qu'annonce l'avenir à terme de Deep Purple. Il montre aussi les limites vocales de Rod Evans, vous le verrez, dont la voix n'est pas faite pour un rock lourd et dur ou aigu. Je ne décris pas cette partie parce que nous allons l'écouter. La critique au bilan jugera ce morceau brouillon et sera dur avec John Lord, soupçonné de vouloir faire cette fameuse liaison entre la musique classique et la musique rock. Pourtant, moi j'aime bien ce morceau, surtout la dernière partie évidemment, mais les autres ne me laissent pas indifférent. Ça montre bien la culture initiale des deux musiciens que sont John Lord et Ritchie Blackmore, d'un côté avec ses origines blues et de l'autre la musique classique, et la tendance rock qui au bout du compte intervient pour clôturer la chanson. Et avec notamment déjà un solo de guitare que je qualifierais de très blackmorien. Still fall the April rain, and the valley's filled with pain, and you can't tell if I cry. C'était donc le morceau April par Deep Purple sur Oxy Web Radio. Au final, Ritchie Blackmore et John Lord sont de plus en plus insatisfaits par la composition du groupe. La sortie du premier album de Led Zeppelin en février 1969 leur a donné des idées, mais ils craignent que Nick Samper et Rod Evans ne soient une gêne dans ce possible virage vers le hard rock. Ils rallient néanmoins Ian Paice et le manager John Coletta à leur point de vue. Et l'échec commercial de cet album, Deep Purple, troisième du nom, semble confirmer que le groupe se trouve dans une impasse. Malgré l'expérience du concerto for group et orchestra, la décision est prise, ils vont se tourner vers le hard rock et nous retrouverons plus tard, pour plus de précision, sur John Lord et Ritchie Blackmore ainsi que Ian Paice, mais cette fois accompagné du bassiste Roger Glover et du chanteur Ian Gillan. La semaine prochaine, on va rester dans du lourd, du sombre, du grave, avec un groupe qui, lui, frappe jamais de la musique classique et taperont tout de suite dans le riff lourd et particulièrement hard rock. Je veux parler de Black Sabbath. Nous aborderons donc leur premier album qui permit à ce groupe d'exister. Mais d'ici là, roulez blues!